Eh bien, la parole de Dieu de ce dimanche ne peut pas nous laisser indifférents, mais la deuxième lecture nous a prévenus. Hein. Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique, plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Alors, quel est le message qui nous est destiné à nous tous en tant que membres d'une Église et à chacun de nous en particulier? Alors, il y a dans cet épisode le destin d'un homme, un destin particulier, celui, hélas, d'une vocation manquée. Et puis, il y a une généralisation de la part de Jésus sur les richesses et sur le salut, hein, les deux. J'en viens directement à la généralisation. Cette impossibilité, soyons francs, pour des riches d'entrer dans le royaume de Dieu, hein, c'est-à-dire de répondre à l'appel de Dieu. Une impossibilité qui, aux yeux de Jésus, est comme naturelle. C'est la fameuse image du chameau et du trou de l'aiguille. Le chameau n'est pas choisi par Jésus au hasard. Qui dit chameau dit lourde charge. Comment un chameau avec toute sa charge pourrait-il passer par le trou d'une aiguille ? Mais nous savons bien que même débarrassé de sa charge, le chameau sera tout aussi incapable de passer par ce trou. Alors, je commente l'évangile à ma façon, en décomposant, en parlant non seulement d'un chameau, mais de sa charge. Je commence par la charge, et ensuite ce sera le tour du chameau. La charge. Alors nous avons, c'est vrai, une sérieuse affaire à une sérieuse mise en garde de la part de Jésus sur la charge que représentent les richesses, en quoi elles sont contraires à la réalisation par chacun du projet de Dieu sur chacun. Alors peut-être que je peux rappeler quand même le contexte dans lequel s'exprime Jésus. Il est double, enfin du moins je retiens deux éléments. D'abord un contexte où l'écart entre riches et pauvres est considérable. La pauvreté, comprenons la misère, est l'état naturel de la plus grande partie de la population. Et cela, mon Dieu, on le trouve naturel parce qu'inévitable. On n'a pas encore inventé les impôts progressifs sur le revenu ou sur le capital ou la sécurité sociale. Rien qui ressemble à une obligation sociale pour les plus riches de participer à un effort de solidarité nationale. Et deuxième élément du contexte, un monde où la richesse est considérée comme une bénédiction de Dieu, la récompense d'une vie juste, religieuse. C'est le message de tout l'Ancien Testament. Voyez le livre de Job, d'où la surprise, sans doute aussi, des disciples quand Jésus tient discours qui ne va pas dans ce sens. Ce message de l'Ancien Testament que, je vais le dire en passant, nombre de courants protestants évangéliques ont repris à leur compte. La richesse comme bénédiction de Dieu. Alors on se demande ce que ces croyants font du message de l'Évangile d'aujourd'hui, eux qui pourtant prônent une lecture littérale de l'Écriture. Du côté catholique, on nous rappelle que l'argent, les richesses ont plutôt mauvaise presse, quelque chose comme une mauvaise conscience. Alors, une charge qui pèse sur les riches comme sur les chameaux et qui invite chacun à s'interroger sur ce qui peut l'encombrer, le distraire de l'essentiel, qui est la réponse au Christ. Cela vaut pour tous. On sait bien que plus un pays est riche, plus ses habitants le sont, eh bien, moins ils sont religieux. Il y a comme un horizontal qui empêche le vertical, la relation à Dieu. Chacun de nous peut se demander où il en est. Alors, ceci pour la charge. Deux mots sur le chameau. Un chameau, même déchargé, ne peut passer par le trou d'une aiguille. Dit Jésus, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Même de sauver un riche, même de faire passer un chameau, par le trou d'une aiguille, avec ou sans charge. Et je crois que c'est bien le cœur du message de Jésus, qui est un cœur, pardonnez-moi ce terme, un cœur de nature théologique. Nul, quelle que soit sa richesse, ne peut se sauver lui-même, même en faisant tous les efforts possibles. Cela vaut pour tous. Dieu seul peut sauver. Personne ne peut, avec ses propres forces, se sauver, c'est-à-dire se mettre dans une relation juste avec Dieu, une relation ajustée, une relation qui donne la vie. On ne peut pas se sauver, on ne peut qu'être sauvé. Alors je voudrais quand même noter à quel point ce message ne va pas de soi. Dans notre contexte, depuis plus de 200 ans, les penseurs, les philosophes, nous enseignent le contraire de ce que je viens de vous rappeler. Vouloir être sauvé, croire que son salut, disons son bonheur, son humanité vraie, dépend d'un autre, d'un Dieu. Vous savez ce que c'est? C'est de l'aliénation, c'est une oppression intellectuelle dont il faut se libérer. L'être humain doit se sauver lui-même, il est maître de son destin. Voilà. Je n'insiste pas pour dire que la mise en œuvre de ce programme n'a pas toujours donné au XXe siècle les résultats escomptés. Voilà, la perspective est donc double, et je termine par là. Il y a ce qui dépend de nous, malgré tout, malgré ce que je viens de vous rappeler. C'est le message de la première lecture qui nous invite à la réflexion, au discernement. Qu'est-ce qui m'encombre? Qu'est-ce qui m'empêche de répondre vraiment à l'appel de celui qui a posé sur moi son regard et qui m'aime, moi aussi, d'un amour unique. Alors bien sûr, ça peut être un bien, mais ça peut être une relation, ça peut être une personne, ça peut être une addiction, que sais-je? Je pense aux addictions à Internet. On est frappé, quand on fait des permanences de confession, de voir à quel point cela revient, chez des jeunes surtout. De quoi ai-je besoin de me libérer? Plutôt d'être libéré. En se souvenant de la formule d'un vieil auteur. Alors, je ne le dis pas d'abord pour les religieuses qui nous accueillent, mais un vieil auteur du XVIIe siècle. On dit « Mon Dieu, je vous donne tout » et on reprend en détail ce qu'on a donné en gros. Voilà. Il y a bien des compensations possibles. On ne donne jamais tout, je pense, et c'est sans doute mieux ainsi. Et puis il y a donc ce qui dépend de nous, et il y a ce qui dépend de Dieu. Dieu seul sauve, Dieu seul peut donner le vrai bonheur. Cela doit être au cœur de notre foi, et bien cela implique une disponibilité. Être sauvé n'est pas quelque chose de passif. Dieu compte sur nous pour nous rendre, oui, c'est le terme que je vous propose, nous rendre disponibles. C'est ce que je viens d'évoquer en mentionnant ce que Dieu attend de nous. Mais encore une fois, notre action ne sera jamais que la réponse à l'action d'un autre, de celui qui en Jésus-Christ nous a aimés le premier. Et sans doute, c'est lui seul qui peut nous débarrasser de nos fardeaux, à condition, bien sûr, de nous rendre disponibles.